Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts pour cheminer avec moi la découverte des femmes artistes. Pour le moment, elles se concentrent plus particulièrement à Paris, dans le Montparnasse de la Belle Époque, au début du XXe siècle, les années 20, les années 30. Parmi toutes ces femmes qui gravitent autour des artistes masculins en tant que modèles, amis, amantes, épouses, sœurs ou cousines ou mères, la plupart sont également des créatrices qui ont quelque chose à dire et cherchent leur place dans ce milieu. Alors, certaines sont liées intimement à des artistes masculins, dont les noms devenus célèbres retentissent encore maintenant à nos oreilles, alors que ce n'est pas le cas pour toutes ces femmes, malgré ce qu'elles ont pu apporter au monde de l'art. Alors, j'en ai cité dans les émissions précédentes, entre autres Marevna, Gretna Knudsen, Valentine Prax. J'aurais pu citer Dora Maar. Nous avons retenu qu'elle était la compagne de Picasso. On a oublié qu'elle était une photographe plutôt douée et originale, appréciée des surréalistes, et elle avait, elle aussi, fait des études artistiques, en passant par les arts décoratifs, l'Académie Julian, entre autres, et la promiscuité de Picasso l'a laissée dans l'ombre, malgré une participation assez originale au monde de l'art. Alors, il semblerait que ce soit le cas pour la peintre dadaïste Suzanne Duchamp, qui révèle de bonnes dispositions artistiques. Le nom de Duchamp doit vous rappeler quelqu'un quand même. Si je vous dis Marcel, vous allez comprendre tout de suite qu'il s'agit de Marcel Duchamp, qui, malgré la diversité de sa créativité, a surtout impacté les esprits en inventant le « ready-made », que nous pouvons traduire en français par le « tout prêt » ou le « tout fait », qui consiste à déplacer un objet usuel de son contexte pour le poser dans un lieu dédié à l'art, le signer et en faire ainsi une œuvre d'art. Alors il l'a fait par provocation, par défi, dérision, bref, j'avais abordé ces sujets dans les premières émissions de La Voix des Arts. Enfin, quoi qu'il en soit, Marcel Duchamp avait défrayé la chronique à son époque en illustrant son idée à l'aide d'un urinoir qu'il avait intitulé Fontaine. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, que vous soyez ou non attirés par l'artistique. Et alors, suite à cette performance, tout le monde connaît maintenant Marcel Duchamp, qui serait peut-être, voire sans doute étonné, de constater à quel point son idée a fait des émules, et notamment, et surtout parmi ceux qui, sans talent notoire, sauf celui d'enfumer la galerie, pouvaient justifier le fait d'exposer n'importe quoi à moindre mal et à moindre coût dans un espace artistique. Bon, cette histoire fonctionne maintenant depuis d'une centaine d'années, un siècle. Vous vous rendez compte, faut fêter ça. Enfin bon, le débat n'est pas là. Et revenons à Suzanne Duchamp, qui n'est autre que la sœur de Marcel, tous deux issus d'une famille d'artistes, puisque même les frères, Jacques et Raymond, étaient peintres et sculpteurs. Et toute la famille exposera d'ailleurs à Rouen en 1967, à la suite de quoi l'exposition se déplacera au musée d'art moderne du centre Georges Pompidou de Paris. Alors, je me rends compte que moi aussi, malgré mon attention et le nombre de mes recherches, je suis influencée par la puissante aura de certains artistes masculins, amplifiée par le monde culturel, qui, en nous montrant certains aspects de leur destinée, finissent par en occulter d'autres. Et dans ces destins connus apparaissent parfois des personnages dignes que l'on s'y arrête un moment. Alors figurez-vous qu'en mentionnant le nom de la sculptrice Camille Claudel, que l'on associe automatiquement maintenant à celui du sculpteur Auguste Rodin, j'ai omis de citer le nom d'une femme importante de son cénacle, qui même a dû jouer un rôle dans la mise en lumière de son travail, hein, notamment lors de la création du musée Rodin, car celui-ci lui en aurait d'ailleurs confié l'organisation. Et elle aussi était une de ses élèves, la dernière à ce qu'il paraît, et il est dit aussi qu'elle aurait entretenu des rapports étroits et réguliers avec Rodin. Alors encore une amie, dite intime, que sa destinée, moins tragique que celle de Camille, aurait rendu transparente, puisque nous n'avons pas entendu grand-chose sur elle. Pourtant, cette peintre, sculptrice lyonnaise, a réalisé plus de 200 sculptures et 2000 dessins qui ont été remarqués à l'époque et par leur qualité et même récompensés. Et cette artiste se nomme Jeanne Bardet. Elle est née en 1872, elle a vécu une partie du XXe siècle et il semblerait qu'elle ait été très attachée à la personnalité de Rodin et des courriers le prouveraient. Or, d'après ce que j'ai saisi de sa personnalité, il semblerait que ce fût quelqu'un de tenace dans son travail, qui cherchait sans cesse à progresser, qui était amoureuse de l'art. Ses maîtres étaient Michel-Ange, Donatello et certainement Rodin. Or, peut-être un peu aventurière aussi, entreprenante, puisqu'elle est partie en Chine et en URSS pour y fonder une école de dessin avec sa fille, également sculptrice. Avec elle, elle vivra également en Égypte et deviendra l'assistante de l'égyptologue Alexandre Valerille. Alors il faut dire qu'elle s'était mariée avec un peintre décorateur avec lequel elle collabora notamment à la réalisation d'une fresque pour le théâtre du Conservatoire de Lyon. Elle sera en outre nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1934, donc à 62 ans, et continuera ses activités artistiques. Alors elle est évidemment une œuvre importante que nous pouvons trouver maintenant plus particulièrement dans sa ville d'origine à Lyon, au musée des arts décoratifs, au musée des beaux-arts ou au jardin des plantes. Alors elle a été comparée évidemment à Camille Claudel, hein, ce qui ne retire rien à l'importance de sa trajectoire personnelle. Et à noter qu'en 2017, La Poste éditera un timbre à son effigie. Alors, il y a également les autres artistes femmes, hein, qui ont cheminé sans trop de promiscuité familiale ou amoureuse avec les artistes masculins. J'ai cité dans l'émission précédente la peintre Anne Français, qui a inventé l'ionisme, une forme d'expression personnelle et particulière. Elle devait être concentrée sur sa création, hein. C'est plus un ressenti subjectif qu'une certitude, car je ne la connais pas si bien, sauf à lire ce qui a été écrit sur elle. Bon, il faudrait bien évidemment prendre connaissance de ce qu'elle a dit et écrit sur l'art, sur ses recherches artistiques. Bon, il me semble qu'elle a bien intellectualisé sa démarche, mais bon... C'est une personnalité à suivre, hein, pour en découvrir davantage, si le cœur vous en dit. Alors, je citerai également l'exemple de la Française Louise Hervieux, qui se présente comme une artiste complète puisqu'elle était peintre, dessinatrice, lithographe et écrivaine. Elle a d'ailleurs illustré Les Fleurs du Mal et le Spleen de Paris de Baudelaire. Et l'Académie française a couronné son œuvre littéraire, Le Bon Vouloir, et elle a reçu de surcroît le prix Fémina pour un autre ouvrage intitulé « Sang » en relation apparemment avec ses propres problèmes de santé. Alors j'ajoute à ce sujet que c'est elle qui est à l'origine du carnet de santé attribué à tous les nouveau-nés. Ce qui veut dire que les artistes, des femmes, et nous l'avons déjà rencontré, sont également à l'origine d'initiatives sociales, de découvertes scientifiques même. Nous l'avions vu avec la sculptrice Anne de Chardonnay, qui a inventé grâce à la chimie un procédé utile pour fabriquer de la soie et de la celluloïde, ou avec l'aquarelliste Jeanne de Villepreux, et ses découvertes en biologie marine, par exemple. Alors voici encore une peintre parisienne née fin du 19e siècle, en 1881, puisque elle est née, a vécu et est décédée à Paris. Et elle était amie avec Suzanne Valadon. Il s'agit de la peintre française Marianne Zeuger, qui deviendra Camax par son mariage avec un homme suffisamment aisé pour qu'elle se consacre à son art. Alors, sa formation de peintre, elle la fera à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui vient juste d'ouvrir ses portes aux femmes. Or, comme elle voulait s'imposer en tant qu'artiste et sortir des schémas attribués aux femmes, elle militera pour que les femmes obtiennent une reconnaissance de leur travail artistique en fondant en 1930 la Société des femmes artistes modernes. Un salon sera organisé chaque année, salon dans lequel exposeront les femmes déjà citées, par exemple les peintres Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Marie Cassatte ou les sculptrices Camille Claudel, Tchana Orloff, la périgourdine Jeanne Pouplet, entre autres. Elle participera à bien des expositions, en organisera aussi, comme une remarquée et intitulée « Les femmes artistes d'Europe exposent au jeu de paume ». Elle recevra des titres honorifiques. Par exemple, elle sera nommée officier d'académie en 1912, officier de l'instruction publique en 1922 et chevalier de la Légion d'honneur en 1932. Et elle sera élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur à 69 ans, un an avant son décès. Alors avant de continuer plus avant, nous allons faire une pause musicale. Je vous avais présenté la dernière émission Germaine Taillefer, une compositrice française très investie dans ce Paris du début du XXe siècle. Et je vous propose maintenant d'écouter un impromptu de Germaine Taillefer. Revenons à nos plasticiennes, peintres entre autres. Alors certaines femmes artistes se lient aussi entre elles, qu'elles soient homosexuelles ou pas. Certaines fonctionnent en binôme, en échangeant et en diversifiant leurs activités. Je retiens les cas de Suzanne Malherbe, née en 1892, illustratrice très liée à une écrivaine plasticienne photographe nommée Lucie Schwob, qui est plus jeune qu'elle de 2 ans. Toutes les deux sont influencées par le mouvement surréaliste. Ces deux femmes se connaissent déjà toutes petites puisqu'elles ont grandi à Nantes et que par l'intermédiaire des familles, elles se retrouvent à Paris à contribuer au journal créé par le père de Lucie, Maurice Schwob, et intitulé Le Phare de la Loire. Pour y travailler, elles emprunteront d'ailleurs des pseudonymes masculins, Marcel Moore pour Suzanne et Claude Cahin pour Lucille. Alors toutes les deux vivront en couple et travailleront souvent ensemble dans leurs métiers respectifs. Lucie publiera des textes notamment dans la revue Le Mercure de France. Elle collaborera soit pour le théâtre, soit dans diverses revues avec des écrivains comme Henri Michaud, Georges Bataille ou le poète Robert Desnos, pour citer les plus connus. Toutes deux afficheront leur position politique, d'autant plus que Lucie Schwob aura souffert d'antisémitisme à un moment délicat de l'histoire à cause de ses origines juives. Et c'est ainsi qu'elles adhéreront à un moment de leur vie à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Puis, à l'âge respectif de 45 et 3 ans et 43 ans, elles partiront vivre sur l'île de Jersey, où elles seront surtout actives en tant que résistantes pendant la guerre 39-40, jusqu'à être arrêtées et même condamnées à mort. Et c'est grâce à la libération survenue à temps qu'elles sortiront de ce mauvais pas. Alors, ceci dit, Lucie affaiblie s'éteindra à 60 ans et Suzanne, elle finira par se suicider à l'âge relativement avancé de 80 ans. Et elles seront d'ailleurs enterrées ensemble à Jersey. Alors, c'était des femmes indépendantes, féministes, qui affichaient un mode de vie personnel et créatif. Elles ont été redécouvertes, voire réhabilitées, jusqu'à recevoir l'hommage de la ville de Paris, qui a nommé Allée Claude Cahin Marcel Moore, une allée du 6e arrondissement de Paris. Alors voilà pour ces femmes dont on peut souligner le courage à la fois pour s'imposer avec un style de vie et pour s'opposer à des régimes abusifs, notamment ceux des périodes de guerre. En tout cas, avec le constat de ces femmes créatrices à ces époques, nous pouvons aussi remarquer l'affluence sur Paris d'un nombre conséquent d'artistes du monde entier, hommes et femmes confondus, surtout pour cette première moitié du XXe siècle, ne serait-ce que pour apprendre la peinture. Alors, pour exemple, je prendrai celui de la peintre canadienne Émilie Carr, venue à Paris en 1910, pour y apprendre la peinture à l'Académie Calarossi et s'immerger, comme tant d'autres, dans ce Paris artistique que vous connaissez mieux maintenant par son côté féminin si vous m'avez accompagné le long de ces émissions jusqu'à présent. Alors, Émilie Carr restera un moment en France pour étudier, apprendre des techniques, s'ouvrir l'esprit, mais elle repartira au Canada où elle sera plus particulièrement interpellée par la culture des autochtones, c'est-à-dire celle des premiers habitants du Canada, comme les Amérindiens, Inuits, etc. Alors, inspirée par ces cultures très en phase avec la nature, elle en révélera dans ses peintures les aspects insolites. Et elle acquérera une notoriété plutôt sur le tard, sa vie s'étant déroulée assez difficilement et dans l'isolement, car il semblerait qu'elle ne fût pas très bien acceptée par sa propre communauté. Elle est néanmoins devenue maintenant une figure dominante de l'art moderne au Canada, où la vision personnelle qu'elle conçoit de son pays revêt un caractère tout à fait unique. Alors, une peintre noire américaine nommée Lois Malou Jones viendra étudier elle aussi à Paris, à l'Académie Julian, pendant 2 ans, où elle semblerait qu'elle souffrit moins de discrimination raciale que dans son propre pays. En tout cas, c'est ce qui est dit. Il faut dire aussi à son crédit que cette personne réussira à passer tous les obstacles dû à son sexe, sa couleur de peau et sa basse extraction, pour devenir, à force de travail, de ténacité, et aussi grâce au soutien de sa famille, ce qui est important, une peintre, une designer et une enseignante reconnue et même influente. Or, sa créativité sera influencée, voire imprégnée, de traditions africaines à la recherche de ses racines, certainement. Et elle dessinera et peindra notamment des masques africains. Son œuvre la plus célèbre est intitulée « Les fétiches ». Alors, dans la continuité de ces artistes étrangères passant par Paris, j'ai également fait la connaissance d'une Chinoise née à la fin du 19e siècle en 1895. Or, il était temps pour mon ami René, particulièrement sensible à ce pays, et j'espère bien qu'il m'écoute. Alors elle se nomme Pan Yang. Elle était sculptrice, mais également graveuse et apparemment, et surtout, peintre. Or, ses débuts dans la vie ne sont pas très heureux, puisqu'orpheline, elle est vendue à l'âge de 13 ans pour être prostituée dans une maison close. Bon, c'est pas le top en effet, mais nous verrons qu'elle ne s'en est pas trop mal sortie, en partie grâce à des rencontres providentielles qui l'orienteront petit à petit sur le chemin de l'art. Bon, maintenant à savoir les répercussions de son expérience de prostituée sur son psychisme, c'est une autre histoire, car souvent l'art est le confident, même voire l'exultoire des non-dits. Enfin, quoi qu'il en soit, dès sa rencontre avec l'art, elle se vouera totalement à lui. Mais tout d'abord, il lui faut sortir de la maison close, ce qui se produira lorsqu'elle aura 18 ans, et c'est grâce à un homme, un fonctionnaire influent, qui la tirera de sa condition en l'épousant. Alors, il est dit qu'elle fut sa seconde épouse. Maintenant, est-ce les deux en même temps ou à la suite l'une de l'autre ? Je ne suis pas suffisamment documentée sur les mœurs chinoises de l'époque pour répondre. Bon, j'allais dire peu importe, quoique le psychisme s'imprime du vécu, et je crois que les femmes, particulièrement les Asiatiques, savent présenter au monde un visage paisible, voire impassible, malgré les tempêtes intérieures. Alors, je me permets de dire cela parce que je me pose des questions, sachant que cette personne, d'après l'importance de sa production, elle a peint de manière quasi compulsive. Aussi, j'essaye de la comprendre en me demandant si ce n'est pas d'être arrachée si tôt à l'enfance qui l'a précipitée vers l'unique refuge qui lui apportait une vraie consolation, ou au moins une raison d'être pour elle-même, c'est-à-dire l'art. Enfin, quoi qu'il en soit, une fois liée à cet homme, elle commencera à apprendre la peinture, d'abord grâce à une connaissance, et puis ensuite parce qu'elle sera remarquée par un ami de son mari, le directeur d'une école de peinture à Shanghai. Et c'est ainsi qu'elle deviendra la première femme à intégrer l'établissement où elle obtiendra son diplôme 3 années plus tard. Ensuite, prise de passion pour son art, elle ne cessera plus de peindre et de progresser, s'intéressant particulièrement à la représentation du nu, cherchant ses modèles où il lui est possible de les trouver, ce qui ne sera pas toujours du goût de son environnement social chinois. Elle partira ensuite en Europe, aux Beaux-Arts de Lyon, à ceux de Paris, puis en Italie à Rome pour se familiariser avec les techniques européennes et pour y apprendre la peinture et la sculpture occidentale. Et lorsqu'elle reviendra ensuite en Chine, elle deviendra professeure pour finir ensuite directrice du département de peinture occidentale à Shanghai. Et c'est à 42 ans, en 1937, qu'elle retournera à Paris pour poursuivre sa carrière de peintre et elle mêlera à son travail les influences chinoises et occidentales. Elle peindra surtout des personnages, des nus féminins bien sûr, mais aussi des portraits, et c'est dans les années 50 du XXe siècle, hein, bien sûr, à l'âge de la maturité, qu'elle s'orientera un peu plus vers la sculpture en réalisant surtout des bustes. Alors après tout un parcours artistique où elle ne cessera de créer, de peindre surtout, c'est à sa mort que l'on dénombrera pas moins de 4000 œuvres. Et elle finira sa vie, dit-on, dans la solitude et le dépouillement. Alors il semblerait que, plus qu'une rétribution matérielle et financière, l'acte de peindre et de créer lui ait été vital à un autre niveau. Alors ses œuvres sont actuellement partagées entre la France et la Chine. Alors, ce personnage a inspiré d'autres créateurs, des écrivains et aussi des cinéastes, et notamment l'un d'eux, le chinois Wang Shuqing, qui réalisera un film intitulé en français « L'âme d'une peintre », bon, que je n'ai pas vu mais qu'il m'intéresserait bien de voir. Alors voilà encore un destin de femme artiste de plus, une asiatique cette fois-ci, pour nous rappeler que l'art est vraiment universel et parfois même, lorsque nous prenons connaissance de ces destins difficiles, nous pouvons supposer que l'art offre peut-être une échappatoire ou au mieux qu'il a vocation de sauver des âmes qui se seraient peut-être perdues sans cela. Voyez tant de femmes artistes défiler devant nous, surtout à Paris, ce début du XXe siècle. Des Françaises, bien sûr, des Canadiennes, des Américaines, Chinoises. Mais la liste n'est pas terminée. Je vous présenterai encore quelques personnalités la prochaine fois. Nous arrivons quand même au bout de cette série dédiée aux femmes artistes au cours du temps. Je vous rappelle que ces émissions sont transmises en direct sur notre radio locale RLP, Radio Libre en Périgord, radio 102.3, et également sur site internet radiolibreenperigord.com, hein, au pluriel et tout attaché, où vous trouverez également la liste des programmes et des podcasts. Merci de votre écoute. C'était Christine Darboux de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.